Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici une histoire sans mort, mais pas sans intérêt, loin de là. Elle se déroule en 1905 à Bordeaux. Émile Canabi, négociant en vin, est au plus mal. Sa femme Henriette l'a-t-elle empoisonné? C'est cette histoire qui a inspiré à l'écrivain François Mauriac l'un de ses livres les plus fameux, Thérèse d'Esquerot. Je l'ai en grande partie écrite en m'appuyant sur le livre de l'historienne Annick Ledouget, Deux empoisonneuses bordelaises, aux éditions La Geste, et c'est avec elle que je la débrieferai dans un deuxième podcast disponible sur votre application. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Boris Paczynski.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Nous voilà en 1905 à Bordeaux, dans le quartier des Chartrons, au bord de la Garonne, au cœur de ce qu'on appelle à l'époque l'aristocratie du bouchon, un quartier de marchands de vin, ou plutôt de négociants en vin. Le monsieur qui nous intéresse justement est négociant en vin, Émile Canabi. Avec sa femme Henriette, il habite au numéro 45 quai des Chartrons. Et en ce matin du 4 avril 1905, il ne va pas bien du tout. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ce matin, j'ai pris un chocolat, comme d'habitude, au petit déjeuner. Et, excusez-moi, depuis, je me sens patraque. Pardonnez-moi un instant, il faut que j'aille aux toilettes. Je crois bien que je vais vomir. Et il dégobille tout son petit déjeuner. Et il le dit à sa femme et à sa mère qui vit avec eux. Ce midi, il ne mangera pas. Je suis vraiment indisposé, mais très cher. Faites-moi servir une infusion de tilleul ou de camomille. Je crois que c'est tout ce que je pourrais avaler. Faites-moi servir. Parce que les Canabis ont une boniche. Et d'ailleurs aussi une femme de chambre. On est chez les bourgeois. Et donc, Émile Canabi ne va pas bien du tout. Et la nuit suivante, il vomit plusieurs fois. De la bile. Il n'a rien mangé depuis le matin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, belle maman, mais je crois que nous devrions faire venir le docteur Quérin. Ça n'est pas bien normal qu'il vomisse comme ça. Vous avez raison, Henriette. Faisons venir le médecin. Le docteur Guérin est un ami d'Émile. Il vient immédiatement. Hé, hey, Guérin, vous voilà. Je sais pas trop ce que j'ai. J'arrête pas de vomir. J'ai encore vomi il y a 5 minutes. Voyons. Ah oui, vous avez de la fièvre. Vous avez tous les symptômes de ce qu'on appelle une grippe infectieuse. Une grippe infectieuse, vous dites? Bon, d'accord. C'est grave? Je dirais que c'est sérieux. Que vous êtes au tout début de la maladie, mon cher ami. Attendez-vous à souffrir dans les heures et les jours qui viennent. La maladie va gagner le reste de votre corps. Vous vous sentirez faible. Très, très faible. Et vous disposez de médicaments pour ce genre de maladie, peut-être? Malheureusement, non, cher Émile. Les meilleurs médicaments dont nous disposons dans ce genre d'infection, c'est de la patience et du repos. Dans les jours qui suivent, Émile Canabi vérifie que son médecin n'a pas menti. Il a mal partout. Il n'y a guère que sa tête et ses poumons qui fonctionnent à peu près bien. Heureusement, le bon docteur Guérin vient le voir tous les jours. C'est rassurant. Cela dit, il a un petit doute sur son diagnostic. Je vous propose, cher Émile, de faire venir un médecin de mes amis, car finalement, compte tenu de l'évolution de votre maladie, je ne suis pas sûr et certain qu'il s'agisse d'une grippe infectieuse. J'ai besoin de son avis. Il revient donc avec le docteur Biteau. Je confirme en tout point votre diagnostic, cher confrère. Il va falloir être patient, monsieur Canabi. Il faudra du temps et beaucoup de repos à avant d'être remis. Et les forces vont venir à vous manquer. La grippe va vous plonger dans une forte inertie. Mais rassurez-vous, le temps passant, vous finirez par vous remettre. Il va falloir être juste patient. Et ça se passe comme les deux docteurs l'ont prévu. Très vite, Émile Canabi ne peut plus bouger ni les jambes, ni les bras. Il n'a plus la moindre force pour les soulever. Un calvaire qui dure 40 jours, pendant lesquels sa mère et sa femme se relaient à son chevet. Il n'y a qu'elles qui ont le droit de rentrer dans la chambre. Elles et un ami du couple, Pierre Rabot. Ah, Pierre, tu es là. Comment vas-tu, Émile ? Oh, pas très bien. Il n'y a donc pas de progrès ? Au contraire, Pierre, j'ai l'impression d'être un peu plus mal tous les jours. Et le docteur Guérin, lui, continue de venir tous les jours. J'avoue, ma chère amie, que je ne comprends plus pourquoi son état ne s'améliore pas. Ça me soucie, vous savez. Permettez-moi de faire à nouveau appel à l'un de mes confrères, le docteur Villard. C'est quelqu'un de très compétent. Ah, je le connais bien. C'est l'un de nos amis, à mon mari et à moi. Et le docteur Villard trouve lui aussi que le fait qu'Émile ne se remette pas est inquiétant. Alors il propose de le prendre dans sa clinique. Nous avons d'excellents médecins. Ils se succéderont à son chevet jusqu'à ce que nous comprenions ce qui lui arrive et qu'il aille mieux. Et là, à la clinique, un miracle se produit. Émile va mieux, et même beaucoup mieux. Les médecins en sont comme deux ronds de cannelés. C'est tout de même très étonnant. Nous ne lui avons administré aucun traitement. Chez lui, il dépérissait de jour en jour, et depuis qu'il est chez nous, il se remet à une vitesse incroyable. Cela dit, il faut nous en réjouir. Êtes-vous au courant, chers confrères, de ce qui se dit dans le quartier des Chartrons? Qu'il s'agit d'un empoisonnement, oui, oui, j'en ai entendu parler. Ce sont des sottises. Si c'était des sottises, mes amis, serais-je là à vous raconter cette histoire? Évidemment que non. En vérité, il n'y a pas que ces rumeurs que colportent les langues de vipères du quartier des Chartrons. Le docteur Guérin lui-même a reçu une lettre anonyme, 5 jours après qu'Émile Canabi soit tombé malade. Une lettre composée de caractères d'imprimerie, découpée et collée. « Votre patient, monsieur Canabi, n'est nullement victime d'une grippe. Il a été empoisonné. » Sur le moment, il s'est dit... C'est encore ennuisible. Alors il n'en a parlé à personne, et surtout pas à Henriette, la femme d'Émile, et pas non plus à sa mère. Et il a jeté la lettre au panier. Mais voilà maintenant qu'un pharmacien, le docteur Ernie, veut lui parler. « Je souhaitais vous rencontrer au sujet de certaines ordonnances qu'une domestique de M. Canabi m'ont présentées. Je les ai trouvées, disons, étonnantes. Étonnantes. Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'il s'agissait de produits qui ne sont pas, disons, banals. C'est-à-dire, eh bien, par exemple, de la digitaline, et de l'anconitine, et de la liqueur de Fowler aussi. Ah bon ? Mais ce sont des poisons. C'est ce que je vous disais. Et c'est pour ça que je suis venu vous voir. Et qui a rédigé ces ordonnances? Le docteur Gobb. À chaque fois, il s'agissait d'ordonnances du docteur Gobb. Et vous avez délivré les médicaments prescrits? Au début, oui. Mais à la troisième ordonnance, j'ai formellement refusé. Et donc, le docteur Guérin, médecin de famille du couple Canapi, décide d'aller voir ce docteur Gobb qui exerce dans le centre de Bordeaux. Enfin, je n'ai jamais délivré de telles ordonnances au Canapi. Jamais. Je peux vous l'assurer. Je les ai là, ces ordonnances. Attendez, regardez, les voilà. Je reconnais que ma signature est bien imitée, mais je vous l'affirme, ce sont des faux. Des faux. Mais qui a pu rédiger ces fausses ordonnances? Alors, et pourquoi diable? Ne jouez pas les imbéciles, docteur Guérin. Vous savez très bien qui la rumeur désigne comme ayant empoisonné le pauvre Émile Canapi. Les langues de pute des Chartrons ne parlent que d'elle. Henriette, Henriette Canapi, la femme d'Émile. Même s'il y en a qui soupçonnent plutôt Pierre Rabot, un ami d'Émile. Mais chez les bookmakers du bord de la Garonne, c'est Henriette qui tient le pompon. Et il y a d'autres pharmaciens qui se sont vus présenter des ordonnances étranges par les domestiques des Canapi. Quoi qu'il en soit, il y a faux et usage de faux. Et donc le docteur Gobb, dont on a imité la signature, l'a entravé. Alors, il saisit la justice. De l'arsenic, dites-vous, docteur? C'est-à-dire pas de l'arsenic à l'état pur. Précisément de la liqueur de Fowler. Ça sert à traiter l'eczéma. Mais ça contient de l'arsenic. Alors selon les prescriptions habituelles, 10 gouttes maximum par jour, c'est sans danger. Et d'ailleurs, c'est en vente libre. Mais à forte dose, ça peut être un poison. Et les deux autres médicaments, la digitaline et l'aconitine, sont-ils dangereux? Ils le sont tout autant, monsieur le juge. Et donc, ces fausses ordonnances signées par vous ont donc été présentées en pharmacie par du personnel de maison de monsieur et madame Canapi. C'est cela, monsieur le juge. Et qui aurait pu avoir usage de ces médicaments dangereux? Vous mènerez votre enquête, monsieur le juge. Mais vous apprendrez qu'il se murmure que madame Canapi aurait possiblement empoisonné son mari avec ces substances. Je ne fais que relayer des rumeurs, ce qui n'est pas dans mes habitudes, mais il importe que vous sachiez. L'information contre X est donc ouverte, confiée au juge Lossu. Commissaire, vous allez commencer par diligenter une perquisition au domicile des Canapi. Vous vous concentrerez sur les médicaments qu'ils détiennent. Et ensuite, vous convoquerez Madame Canapi Henriette et vous l'entendrez au sujet des ordonnances.
La tête d'Henriette quand elle voit la police débarquer chez elle pour une perquisition. Perquisition qui d'ailleurs ne donne rien. Et la voilà donc face au commissaire.
Je vous en prie, madame, asseyez-vous.
Merci, commissaire. Que puis-je pour vous?
Eh bien, madame, il s'avère que l'un de vos employés s'est présenté à 4 reprises dans des pharmacies de la ville avec des ordonnances pour des produits, disons, dangereux. et pour le moins dangereux dans des quantités, disons, inhabituelles. Étiez-vous au courant de cela ?
Oui, je le reconnais, monsieur le juge. J'étais au courant. Et je dois dire que dans cette affaire, j'ai été dupé.
Dupé ? Expliquez.
Voilà. Quand mon mari est tombé malade, le pauvre, j'ai trouvé dans son courrier une enveloppe avec marqué « confidentiel ». Naturellement, puisqu'il ne pouvait pas le faire lui-même, je l'ai ouverte. C'était une lettre du docteur Gobe, que nous connaissons, hein, accompagnée d'une ordonnance. Il disait qu'il devait faire des expériences avec ses étudiants, et il demandait un service à mon mari, c'est-à-dire d'aller prendre pour lui les médicaments prescrits sur l'ordonnance qui était jointe à la lettre. Et j'ai demandé à ma domestique de le faire. Voilà tout.
Et le docteur Gordon, il est venu chercher les médicaments ?
Non. C'est un homme qui est venu les récupérer pour lui. Un homme que je connaissais pas. Et l'opération s'est répétée 3 fois.
J'aurais pas dû faire cela pour rendre service au docteur Gobe. Je me rends compte que je me suis mise dans la difficulté.
Retrouvez Christophe Andelatte pour la suite de votre récit dans un autre podcast déjà disponible sur votre plateforme.